Bonjour et bienvenue dans le 7ème épisode de Fire Escape. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Florian, il est français. Il a longtemps vécu en Espagne et a déménagé en Caroline du Nord après avoir été muté par son entreprise. Il s'agira donc d'un récit assez différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre puisque son expatriation est le résultat d'une opportunité professionnelle et pas d'un rêve de longue date. Dans cet épisode, il nous raconte son voyage vers l'inconnu et la vie dans une petite ville du sud des États-Unis, loin des sentiers battus et de ce que Hollywood aime nous montrer. Direction la petite ville de New Bern en Caroline du Nord. C'est parti. Pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais?
Alors, je m'appelle Florian, je vais avoir 37 ans la semaine prochaine. Je suis ingénieur en électronique et je travaille dans une filiale du groupe Bosch et qui fait de l'électroménager. Je travaille dans le développement des lave-vaisselle.
Et donc, du coup, tu travailles actuellement en Caroline du Nord, si je dis pas de bêtises, c'est ça?
En ce moment, ouais, j'ai été muté en 2019 dans une des usines du groupe qui est en Caroline du Nord. On a quelques usines aux États-Unis. Il y en a une au Tennessee et une autre ici en Caroline du Nord. Et donc, on m'a proposé une mutation depuis l'Espagne où je travaillais avant dans une autre usine de lave-vaisselle du groupe en Europe. Et donc, ça fait à peu près maintenant 2 ans que je suis ici en Caroline du Nord.
Est-ce que les États-Unis, c'est un pays qui t'attirait particulièrement avant que tu y sois muté?
Ça, c'est une bonne question. À vrai dire, je pense qu'il y a pas mal de monde qui doit penser à peu près la même chose. Quand j'étais plus petit, plus jeune, c'est vraiment le pays qui faisait un peu rêver parce que c'est les choses qu'on voyait à la télévision, dans les séries, dans les films, aux informations et tout. Mais c'était pas vraiment la destination numéro un que j'avais pour aller travailler, vivre ou autre. Et en fait, c'était vraiment un concours de circonstances un petit peu subi et soudain. Fin 2016, début 2017, et qui m'a emmené essayer une nouvelle aventure ici aux États-Unis.
Tu y avais déjà été avant?
Alors, la seule fois que j'y avais mis les pieds, c'était, je ne savais même pas encore à l'époque que j'allais venir ici, c'était en 2018 où on a fait un voyage un peu organisé à l'arrache avec un ami d'Espagne. Et on a visité la Californie de haut en bas. Mais pour moi, c'était à cette époque-là juste un voyage de tourisme. Et je ne pouvais même pas imaginer qu'un an plus tard, j'allais être ici en train de travailler en Caroline du Nord.
Et du coup, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de gens que j'interview qui, eux, ont toujours rêvé de vivre aux États-Unis et qui ont tout fait pour y arriver. Et bon, du coup, ils ont un peu réalisé leur rêve. Toi, tu as un peu été, tu as été sans forcément le vouloir. Comment tu l'as ressenti, ce déménagement-là?
Ouais, je vais pas dire que ça a été vraiment une obligation, mais disons que moi, les États-Unis, c'est vrai que ça faisait rêver au niveau tourisme et compagnie. Enfin, c'était pas j'avais pas en tête d'aller vivre, travailler et être très longtemps ici. Et finalement, c'est comme pas mal de fois dans ma vie où j'ai fait ça. Tu te retrouves au pied du mur, tu dis bon, faut y aller, et finalement, voilà, on va tenter une nouvelle aventure. Et donc là, ouais, ça fait deux ans que je suis ici. Et on m'aurait demandé il y a 4 ans ou 5 ans, est-ce que tu devrais travailler aux États-Unis? J'aurais dit non, franchement. Enfin, y aller pour du tourisme, oui. Enfin, y travailler, y habiter, je pense pas. Et finalement, ça s'est fait.
Et quand on t'a proposé cette opportunité, c'est quoi qui t'a fait dire oui?
Alors, l'histoire est un petit peu, elle vient d'il y a longtemps, en fait, dans le groupe dans lequel je travaille, chez BSH. Fabrique des électroménagers. On a des tonnes d'usines un peu partout dans le monde et surtout en Europe, que c'est un groupe allemand. Et en fait, l'usine dans laquelle je travaillais avant en Espagne, qui fabriquait des lave-vaisselle, dans la ville où j'étais, ils fabriquaient des lave-vaisselle, des plaques à induction, des fours et des machines à laver. Et l'usine de lave-vaisselle a dû fermer. C'était annoncé en 2016. Et donc, ils ont commencé à reclasser un peu tout le monde. Ça a été relativement bien fait. Et moi, je voyais arriver l'échéance de 2019 qui nous avait donné pour l'arrêt total des activités de production de lave-vaisselle. Je dis, bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et finalement, à la fin de 2018, mon chef m'a convoqué et m'a dit, bah, écoute, si tu veux, il y a un poste qui est libre dans l'usine qu'on a en Caroline du Nord. Donc, si ça t'intéresse, moi, j'appelle le chef et ils peuvent te faire un entretien d'embauche et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que tous les ans, c'est un... Au niveau légal, les entreprises doivent faire des bilans de compétences de tous leurs employés. Et dans une des questions typiques qu'on demande à la fin de l'entretien avec le, avec son responsable, et tous les gens c'était pareil, hein. C'était est-ce que vous avez de la mobilité, vous êtes disponible pour voyager dans le monde, et puis après ils on pose la question, est-ce que si vous aviez une opportunité pour aller travailler dans un de nos centres à l'étranger, est-ce que vous seriez disponible? Et donc moi toujours je répondais oui, et il disait est-ce que vous avez des usines vers lesquelles vous ne voulez pas aller? Moi j'avais toujours dit il y avait deux pays qui m'intéressaient pas du tout, mais j'ai dit si vous avez un poste dans l'usine qu'on a en Caroline du Nord, moi j'y vais les yeux fermés. Et puis finalement c'est ce poste-là qu'on m'a proposé à la fin 2018.
Et ça, c'est un super témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent travailler aux États-Unis et qui imaginent qu'il faut travailler dans une entreprise américaine. C'est très difficile parce qu'il faut un sponsor, etc.
Alors et donc, non, toi, pas du tout.
Tu as été transféré.
Disons que nous, on est dans le groupe, enfin le groupe Bosch, c'est celui qui m'a sponsorisé pour aller travailler aux États-Unis. Donc c'est vrai que ça aide relativement pas mal quand on est dans une multinationale parce que les autorités américaines, ils ont des dossiers un peu sur toutes les compagnies. C'est vrai que si tu te montes un garage de changement de pneus qui n'est absolument pas connu, ça va être un petit peu compliqué pour venir demander un visa pour aller travailler aux États-Unis. En revanche, quand derrière toi, tu as le gros groupe international Bosch qui va te dire non, moi, c'est cet employé-là que je veux, je vais te le justifier par A plus B, il n'y a personne qui peut faire ça, parce qu'ils doivent évidemment justifier qu'il n'y a personne aux États-Unis ou dans la région dans laquelle je suis qui peut faire le travail que moi je vais faire. Que c'est que cet employé-là qu'on veut, et après je sais pas, ils doivent payer, je pense, avoir des licences ou des trucs comme ça à payer, ça j'étais pas au courant, mais ouais c'est assez compliqué pour obtenir un permis de travail, mais à partir du moment où on est dans un grand groupe, ça peut aller beaucoup plus facilement, et pour le selon le type de visa qu'on a dans l'entreprise, les différents visas qu'on a, tous les employés qui sont allemands, parce que la boîte est allemande, je crois qu'ils doivent avoir des visas E2 ou E4, un truc comme ça. Mm-hmm. Les autres, comme moi, on a des visas L1, L1B. Et donc, ces trucs-là, ça passe par des sponsors. Et donc, c'est relativement... Moi, ça a pris en tout après 6 mois, depuis le moment où j'ai commencé à faire les papiers jusqu'à ce que j'ai eu le visa tamponné sur mon passeport.
Donc, j'imagine que ton entreprise t'a beaucoup assisté pour faire toute cette paperasse. T'as pas forcément été tout seul perdu dans ce parcours du combattant?
Ah, moi j'étais complètement guidé pour ça. En fait, l'entreprise située aux États-Unis, elle fait ça tous les 4 matins. On a des tonnes et des tonnes d'employés qui viennent de l'étranger, de plein de pays. Et en fait, ils payent les services d'une espèce de cabinet d'avocats qui est dans l'Illinois, je crois. Et en fait, qui se charge de faire toute la paperasse administrative pour faire les demandes de visa, et même après en plus de l'immigration, les histoires de relocation, c'est-à-dire de déménagement, de location de maison, de voiture de location et tout ça. Et c'est vrai qu'ils gèrent tout. On n'a pas grand-chose à faire. Moi, de ma part, la seule chose que j'ai dû gérer, ça a dû être le séjour à Madrid quand j'ai dû aller faire l'entretien à l'ambassade américaine. Mais à part ça, c'était pas. Ils demandent juste, ils donnent une liste de papiers, donnez-moi ça, ça, ça et ça, on leur envoie et après c'est eux qui se chargent de tout. C'est vrai que je pense que ça va être beaucoup plus compliqué quand une personne veut aller faire y aller en candidat libre, on va dire, et se faire tous les papiers par lui-même.
Bien sûr. Du coup, un petit peu avant, j'aimerais bien revenir un peu sur ton passé, parce que tu m'as dit que tu avais étudié en Suède, tu as travaillé pendant plusieurs années en Espagne. Donc toi, c'est pas la première fois que tu vas vivre à l'étranger. Est-ce que tu peux me parler un peu de comment tu fais pour t'adapter quand tu arrives dans un nouveau pays?
Alors ouais, disons que j'ai fait sur plusieurs pays en fait. J'ai fait la plupart de mes études en France à l'université de Paris 11 à Orsay. Et bon, je dis depuis cette époque-là, l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais a changé déjà 2 ou 3 fois de nom. Donc maintenant, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Je crois que ça s'appelle, c'est dans le réseau Polytech. Ça s'appelle Polytech Paris Sud ou Paris Saclay, un truc comme ça. Mais quand j'ai commencé, ça s'appelait FUPSO. Après, c'est passé à Paris Sud, je crois, et Polytech Paris Sud. Et maintenant, ça a encore changé. Enfin bref, l'avant-dernière année de mes études dans cette école d'ingénieurs, c'est une école d'ingénieurs généraliste, c'est de l'électronique, des matériaux, de l'informatique. J'étais en Erasmus en Suède. Et donc, normalement, les programmes Erasmus, ça se fait sur un semestre à peu près. Moi, c'était depuis le mois de septembre jusqu'au mois d'avril à peu près. Et en fait, je me suis tellement bien plu là-bas, j'ai une assez bonne capacité d'adaptation dans des pays quand je vais à l'étranger. Et j'ai demandé pour faire un stage, parce qu'il fallait qu'on fasse un stage à la fin de la deuxième année dans une entreprise. Donc j'ai demandé dans l'université dans laquelle j'étais, à KTH. Il y avait deux grosses universités là-bas, il y avait l'université de Stockholm et KTH. Moi, j'étais à KTH et donc j'ai fait un stage de 3 mois dans un laboratoire d'électromagnétisme dans l'université là-bas.
Ok.
Et une fois que je suis revenu, en fait, je suis revenu au mois d'août, ouais, à la fin de l'été. Et après ça, j'ai dû faire encore 6 mois d'études dans l'école en France. Et après, ben, c'est le stage ingénieur, le fameux stage de 6 mois. Et quand j'ai demandé mon stage de 6 mois, j'ai envoyé des CV un peu partout, enfin, plein d'entreprises. Et sauf que j'avais envie d'aller travailler en Espagne, parce que c'est là que ma famille. Donc, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation dans plein d'entreprises, mais juste en Espagne. Et puis finalement, au mois de décembre, une entreprise qui m'a contacté m'a dit: votre profil nous intéresse, est-ce que vous voulez venir faire votre stage avec nous? Et en fait, c'était l'entreprise BSH. À l'époque, j'en avais même pas entendu parler. Moi, je connaissais une des marques sur lesquelles, enfin, qu'ils fabriquaient, mais je connaissais pas l'entreprise BSH. Donc, j'ai vu dans les emails, je dis, bon, c'est le groupe Bosch. C'est vrai que j'avais pas souvenir avoir envoyé un CV au groupe Bosch. Et finalement, ils m'ont pris pour officiellement 6 mois, et puis ben, je suis resté là-bas 13 ans.
Ah ouais, donc c'est une belle histoire du coup.
Oui, c'est vraiment, c'est ce que je dis tout le temps. J'avais fait plusieurs conférences parfois dans mon ancienne école, où je leur ai dit, pour tous les embauches et ces trucs-là, c'est faut être, je sais pas, je fais pas de statistiques, mais c'est à 80% au bon endroit au bon moment. Et moi, à chaque fois, c'était des
Ouais.
trucs comme ça qui me sont arrivés. Et là, en l'occurrence, j'ai fait mon stage de 6 mois. Après, ils m'ont prolongé de 3 mois parce que je devais terminer un truc. Ils m'ont dit: ça te dérange de rester ici pour 3 mois supplémentaires? Je fais: bon, de toute façon, il faut que j'aille faire ma soutenance dans mon école. Mais après, il faut que je cherche du boulot. Donc, si vous voulez que je reste chez vous pendant 3 mois supplémentaires, il n'y a pas de problème. Et en fait, 2 semaines avant que mon contrat se termine, un collègue de mon bureau a posé sa démission parce qu'il est parti dans une autre ville. Et le chef m'a appelé, m'a dit: je peux pas rester sans personne sur ce poste pendant plus de 2 semaines. Est-ce que tu veux le poste, oui ou non? Je fais: bon, ben ouais. Et en fait, je suis resté pendant, on va dire, 4 ans, 5 ans dans ce département-là, au département de qualité. Et après, j'étais passé dans le département du développement. J'y suis resté, ouais, 8 ans.
Et maintenant, tu es aux États-Unis, donc l'histoire n'est même pas encore terminée.
Et maintenant, dans le même département, en développement de la vaisselle, en électronique et en software, je suis passé dans l'usine qu'on a aux États-Unis. Alors évidemment, le produit qu'on fabrique est relativement similaire, on va dire, mais enfin, le calibre de l'usine est largement différent. En Espagne, avant que l'usine ferme, on était on va dire, 250 000 appareils par an. Là, cette année, en 2021, dans l'usine des États-Unis, parce que c'est la seule usine qui fabrique pour tout le nord de l'Amérique, États-Unis, Canada, on est à, ouais, on va voir 1 200 000 appareils fabriqués juste pour les
Ah
lave-vaisselle.
ouais.
On est quand même sur un autre calibre, et ça change, ça fait un petit peu des challenges, un peu des défis dans le département, mais c'est des trucs que j'aime bien. Et c'est vrai que je passe depuis assez longtemps, je me pose pas trop de questions, on va dire. Et quand j'ai un défi qui se pose devant moi, ben, je dis: bah, écoute, je peux pas aller en arrière, on va le prendre tel qu'il arrive, et on se débrouille. En général, c'est ce que je fais. Et ça se passe relativement bien.
Est-ce que tu trouves qu'il y a des grosses différences sur la manière de travailler aux États-Unis par rapport en Europe?
Ah oui, ça, et on en avait parlé, parce que il y a pas mal de collègues ici qui sont étrangers. On a des Indiens, Pakistanais, des Espagnols, des Turcs, des Polonais, enfin, tout et n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde qui se rejoint à peu près sur les mêmes trucs. Alors, premièrement, ils sont relativement relax, c'est-à-dire pas trop de stress. Parfois, ça peut faire penser à un petit peu d'inefficacité. Bon, ils travaillent, le travail est fait, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins stressés que ce que j'ai pu connaître en Espagne. Et ils sont pas très enclins à recevoir des critiques de face, on va dire.
Ok.
C'est-à-dire que en Espagne ou même en France, quand t'as un responsable qui est pas très content de ce que fait un ou un employé a fait une erreur ou autre, tu fais une réunion en tête à tête. Il y a pas trop de problèmes avec ça. Et ici, c'est vrai qu'ils peuvent assez mal prendre quand on leur fait une critique de face, même si c'est une critique constructive ou c'est pas dit méchamment et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé hein, personnellement. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça dans l'usine. Il faut faire gaffe à pas trop critiquer les Américains parce qu'ils sont un petit peu sensibles parfois.
C'est étonnant parce que depuis l'Europe, on a toujours cette impression que le management aux États-Unis, c'est très dur.
Je sais pas, moi, à mon niveau, j'ai pas trop eu cette sensation-là. C'est vrai qu'ils sont on va dire, avec un peu de distance. J'avais à peu près le même travail quand j'étais en Espagne. Et en 6 ou 7 ans, j'ai jamais été pas augmenté, mais enfin on avait les augmentations de salaire tous les ans, moi, c'était des broutilles de pourcents. Mais enfin je changeais pas de poste. Il y a des gens qui ça faisait peut-être 20 ans qu'ils étaient dans le même poste et tout. Et là, moi, ça fait 2 ans que je suis ici. J'ai déjà été augmenté. J'ai eu une promotion. Et il y a pas mal de gens comme ça qui reçoivent des promotions. Évidemment, toi tu continues, tu fais à peu près grosso modo toujours la même chose, mais avec un peu plus de responsabilité dans mon cas. Mais les augmentations de salaire sont substantielles. Et c'est vrai que ici en moins de 2 ans, j'ai déjà eu une bonne promotion et une bonne augmentation, chose qu'en Espagne j'avais jamais eu. Et je sais pas si c'est parce que l'usine dans laquelle on est ici, en Caroline du Nord, il doit avoir un petit peu de problème pour trouver des gens, de la main-d'œuvre pour travailler chez eux. Alors qu'en Espagne, la main-d'œuvre qualifiée, ils en ont à tire-larigot, ils ont aucun problème pour trouver des ingénieurs. C'est pour ça que parfois, ça fait quelques problèmes au niveau des salaires. Tu veux pas travailler? Bon, t'en fais pas. On a encore 30 candidats comme toi derrière la porte. Donc, si tu veux pas le poste, ça va aller plus vite. Alors qu'ici, l'entreprise met vraiment la main à la poche pour faire venir les talents, c'est un petit peu présomptueux de te dire ça, mais la main-d'œuvre qualifiée, et ils essayent vraiment d'aider ce genre de choses, de faire venir des employés. Et après, je ne sais pas si c'est dans tous les États-Unis pareil, mais c'est vrai que j'ai eu la sensation par rapport à l'usine dans laquelle j'étais avant en Espagne, qu'ici c'est beaucoup plus multiculturel, on va dire. Il y a des gens d'à peu près partout. Enfin, je ne sais pas. L'année dernière, on avait demandé combien il y avait de nationalités différentes dans l'usine et je crois qu'on est arrivé sur 16 ou 17 nationalités différentes. Alors qu'en usine où j'étais en Espagne, si parfois il y avait une année un Allemand qui venait chez nous pour travailler ou quelque chose comme ça, enfin c'était pas grand-chose. Le reste, c'était du 100%, on était tous des Espagnols et il n'y avait pas trop de variations là-dessus.
Et même en dehors de l'entreprise, en Caroline du Nord, ce côté multiculturel, tu le ressens? Parce que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup dans les grandes villes américaines. Est-ce que c'est le cas même dans le reste des États-Unis?
Alors c'est vrai que quand on va dans des grosses villes, on voit des gens d'à peu près partout. Et ici en Caroline du Nord, si on va sur la capitale qui est à Raleigh ou la grosse ville à Charlotte qui est de l'autre côté de l'État par rapport au sud, moi je suis sur la côte, c'est vrai que c'est beaucoup moins multiculturel. Bon, c'est un État du Sud, la Caroline du Nord, et c'est vrai que c'est très, à dire très, dans certains coins très redneck. C'est en gros, c'est les deux seules villes qui sont à peu près ouvertes, c'est Raleigh et Charlotte. Et bon, après, il y a d'autres grosses villes. Wilmington relativement correct à peu près, mais le reste des autres des villes, c'est des villes de 20 000, 30 000 habitants. Et c'est les États-Unis profonds, on va dire. Et ici, dans la zone dans laquelle je suis, c'est quasiment exclusivement des gens de chez Bosch, là où je suis, des retraités ou des militaires. On a des bases militaires un peu partout. On a Norfolk en Virginie, on a Cherry Point ici à côté et Jacksonville aussi, une base de la marine, et ça qu'il y a des militaires partout. Ça se ressent vraiment beaucoup quand on va dans la rue.
Et du coup, toi, comment tu décrirais un peu cette Amérique profonde entre guillemets qu'on a souvent vu dans les films, je pense, mais c'est assez difficile de savoir à quoi ça ressemble vraiment.
Alors c'est vrai que moi, quand j'ai dans le nombre de pays vers lesquels j'ai voyagé, j'ai toujours été plus attiré. Bon, c'est vrai que la capitale, c'est la ville où il faut être, c'est the place to be. Et tu vois, il y a les monuments que tu vois dans les bouquins, dans les films et tout ça. Bon, c'est intéressant, mais après, moi, c'est pas ce qui va m'attirer le plus. Moi, je suis plus à aller vraiment quand je vais visiter un pays, c'est d'aller dans le fond du pays, connaître les gens qui sont, on va dire, entre guillemets, les vrais Américains. Et c'est une chose qui, moi, m'attire un petit peu plus que la grosse ville. Parce que la grosse ville, après, tu veux dire, les gens, oh, j'étais à New York, j'étais aux États-Unis, j'ai visité New York.
Oui, ouais, bien sûr, c'est pas les États-Unis.
C'est pas le plus représentatif. Et ouais, par rapport à moi, ce que je vois ici dans le coin, enfin, on va dire, entre guillemets, d'Amérique profonde, la chose la plus similaire que j'ai pu trouver, c'était en littérature. Quand on lit les livres de Joël Dicker, où il a pas mal ambiancé ses histoires dans des petits villages des États-Unis, c'est vraiment l'Amérique, comme moi je suis en train de la voir ici, ou des villes qui ont pas grand chose de, pas d'attrait touristique, les maisons sont toutes pareilles, la structure du centre-ville est à peu près pareille, t'as les mêmes restaurants, grosso modo les mêmes personnes. Et moi, la chose la plus similaire que j'ai pu lire par rapport à ce que je vois ici en Caroline du Nord, à New Bern, c'est, ouais, l'ambiance qui est décrite dans les bouquins de Joël Dicker.
Et les gens? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont plus ouverts ou plus fermés? Est-ce que les gens sont plus accueillants, selon des clichés qu'on entend aussi? Comment tu décrirais les Américains de cette région?
Juste quand je suis arrivé, j'étais relativement, je ne vais pas dire choqué, choqué, ça fait un peu violent, mais de par la gentillesse et l'ouverture des gens. Et c'est vrai qu'il y a des gens, tu te dis, vous n'avez aucune obligation de se comporter comme ça avec moi. Je suis nouveau, je viens d'arriver, je connais personne ici. Tu n'as pas non plus l'obligation de m'inviter, de venir parler avec moi. Et si, ils le font, ils sont extrêmement ouverts. Et c'est vrai que c'était très sympathique. Et ce n'est pas le genre, celui-là, il vient de loin, il vient de dehors. On va le mettre un petit peu en marge de, peu importe que ce soit à l'usine ou dans la ville. Ils sont très sympathiques. Et après, ça peut aller par des genre des commentaires quand tu vas au supermarché, ou des trucs que moi je pense en Espagne j'aurais jamais eu ça, où ils te notent quand tu vas payer, ils remarquent un petit accent et ils disent, ah, vous avez un accent, vous êtes d'où? Je viens d'Espagne. Et ils commencent directement à engager la conversation comme si on s'était connu depuis 20 ans. Et comme si on était les meilleurs amis du monde, alors qu'en fait, non, c'est juste la caissière du supermarché. Et c'est vrai que pour ça, ils sont relativement ouverts. Ouais.
Et du coup, bon, toi, puisque t'es arrivé ici sans connaître beaucoup de monde, tu m'as expliqué en plus que c'était assez loin du consulat, etc. Ça a été facile pour toi de s'intégrer dans ce nouveau monde ?
Dans l'usine, ouais, c'était relativement facile. En plus, comme on a eu des services de relocation qu'ils appellent pour nous trouver, ouais, une maison, une bagnole de location et tout ça, ça a été relativement facile. Ils ont fait, tu te sens vraiment avec quelqu'un derrière toi pour t'aider et faire toute la paperasse et tout ça. Et ici, okay, j'ai connu des gens qui venaient d'Espagne, qui m'ont relativement bien aidé. C'est-à-dire de te dire, le premier jour où tu arrives, il faut que tu ailles à la banque ouvrir un compte, il faut que tu ailles à la sécurité sociale trouver ton numéro de sécu. Enfin, c'est pas le même numéro de sécu qu'on a en France, c'est utilisé pour des fins de statistiques. Bon, je sais pas exactement pourquoi c'est utilisé, mais c'est pas la sécurité sociale à la française où
oui.
Les médicaments sont gratuits. Mais ouais, ils m'ont tout indiqué pour trouver ces trucs-là. Et c'est vrai que dans l'usine, dès que j'avais un problème pour faire une paperasse pour les impôts ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour t'aider pour faire ce genre de papier.
Et du point de vue social, est-ce que tu penses que cette ouverture des Américains, ça a pu t'aider à t'intégrer?
Ça a un peu aidé, ouais, mais après c'est pareil, tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac en disant tous les Américains sont pareils et tout ça. Qu'ici on a, moi, enfin, les premières personnes que j'ai connues, c'était l'agent immobilier pour trouver ma maison, le personnel des ressources humaines dans l'usine qui m'ont aidé pour trouver un appartement de location avant que je trouve la maison, tout ça. Enfin, ils m'ont tous pas mal aidé. Mais c'est, il y a quand même, ça s'est beaucoup vu avec les élections pendant la campagne à la fin de, du milieu 2020, fin 2020, où tous les sentiments politique était très exacerbée. Et dans cette région-là, à part Charlotte et Raleigh, la capitale, c'est très, très, très largement républicain. Et parfois, quand on arrive de France, et là, je dis même pas de, enfin, de France, moi, en l'occurrence, je viens de l'Espagne, mais où tu peux avoir des idées de droite ou de gauche et tout, les gens, ils gardent ça pour eux. Enfin, c'est pas, ça intéresse personne de savoir pour qui on vote. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est ça arrive à un niveau relativement pesant. Quand je voyais les dernières élections en 2016, aux États-Unis, je suivais ça depuis la télévision en Espagne et tout. Alors, il y avait des choses qui nous paraissaient, enfin pour nous les Européens, très très choquantes de voir les gens qui se baladent avec des autocollants de partis politiques. Et là, je dis, je rentre même pas sur les démocrates ou républicains, c'est tous les partis politiques sur leurs voitures, sur les maisons, des drapeaux partout. C'est vrai que nous, pour notre mentalité, c'est un truc un peu bizarre. Mais là, depuis que je suis ici, j'ai pu le vivre en premier rang. Et c'est quand même une chose assez spéciale.
Tu n'es pas forcément obligé de nous parler de tes opinions à toi, mais comment tu l'as vécu au quotidien cette année, parce qu'elle a quand même été assez dure avec le Covid, avec les élections, avec cette division qu'il y avait aux États-Unis. Quand on est étranger, on n'a pas forcément envie de rentrer dans le débat. Comment tu as pu vivre ça au quotidien ?
Ben disons, moi, je me tiens vachement au courant, en fait, avec des médias d'Espagne, des médias de France, des médias du Royaume-Uni et aussi quelques médias aux États-Unis. Je fais un petit peu des comparaisons sur ce que font les commentaires que font chaque pays, ce qui est un peu mainstream dans un pays ou dans un autre. Et c'est vrai que j'ai été quand même la philosophie, on va dire, les idées majoritaire, on va dire, qu'il va y avoir en Europe, c'était très dire que Joe Biden et Kamala Harris, c'est on va dire la gauche, l'autre c'est ouais, la droite populiste. Et en fait, quand on est ici, on voit les idées qu'ils proposent. Si on calque Joe Biden et Kamala Harris sur les modèles politiques qu'on peut avoir en Espagne ou en France, c'est du centre droit, modéré, normal. Enfin, c'est loin de la gauche quand même. Ce qui est,
ouais, absolument.
Et sauf que c'est vrai qu'en Europe, les gens sont beaucoup plus enclins à penser que ce sont des partis comme sur la France Insoumise ou des partis de gauche, alors qu'en fait ici c'est
ouais, on est très loin.
Centre droit ou droite populiste, limite tirant vers l'extrême droite. Mais après, quand on discute avec les gens un peu, on m'avait dit avant de venir ici, fais gaffe avec les commentaires de politique et tout, parce que tu peux te faire mettre au banc de ton département ou de ton groupe d'amis et tout si tu fais des commentaires en politique. Franchement, j'ai pas trop eu cette sensation-là. Alors que pourtant, dans mon usine, il y a des gens, il y a bonne colonie de redneck, on va dire. On est vraiment dans le jeu, vous savez, des gros camions sur le parking avec limite les drapeaux dans la remorque. Enfin, c'est un truc un peu spécial à voir. Mais non, j'ai pas eu d'accroche sur l'histoire de politique. J'en ai peut-être eu avec des amis américains, bon, ça qui sont pas dans l'usine, où je dis, on s'est un petit peu engueulé parfois, je leur disais, mais je te demande pas d'être vert ou jaune, je te demande juste d'avoir un cerveau et de pas croire absolument tout ce qui est dit dans un seul journal. Parce que ça, il y en a beaucoup qui sont là-dedans. On a eu ça avec quand le Covid est arrivé, où Trump disait que c'était la faute des Chinois et compagnie. Alors que les États-Unis, pour ceux qui connaissent un petit peu, et c'est vrai que tu en as pas mal parlé dans tes reportages que tu as fait sur YouTube, pas la haine, mais on va dire la ségrégation envers les Chinois depuis le milieu du 19e siècle, c'est pas un truc nouveau,
ouais, bien sûr,
de maintenant. Au début du 20e siècle, les Chinois étaient persécutés pareil que les Noirs. Et c'est un truc qui existe. Et donc, quand t'as le président qui va te dire, bah, c'est la faute aux Chinois, c'est les Chinois qui vont devoir payer pour ça et tout, bah, ça développe un petit peu un sentiment de c'est un peu fort de dire de haine, mais de défiance envers la Chine. Et les gens ici, enfin, il y a beaucoup qui se posent pas la question de savoir, est-ce qu'ils ont un petit peu de pragmatisme dans ce qu'ils vont sortir ou autre. Tu peux critiquer le gouvernement chinois si t'as envie, mais enfin, ne mets pas tous les Chinois dans le même sac, parce qu'on voit ce que ça a fait en Europe au milieu du XXe siècle, de mettre tout le monde dans le même sac en disant que ils ont la faute sur tout et n'importe quoi. En revanche, moi, les débats politiques, quand ça devient un peu stérile comme ça, je suis pas trop fan, mais ici, il y a le sujet sur lequel j'ai lancé pas mal de personnes, et là, ça fait des débats animés, parce que curieusement, Il y en a beaucoup qui pensent comme moi là-dessus. C'est le débat éternel entre le système impérial et le système métrique. Et alors ça, c'est quand on
se
soirée, on a de quoi tenir des heures en discutant là-dessus. En plus, moi, quand je viens du milieu scientifique, j'ai fait des études de physique. On a eu même des cours entiers sur les notations des unités, l'histoire des unités et compagnie. Et quand ils viennent ici avec les miles, les pounds. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, les ounces, enfin, il y a des tonnes d'unités. Moi, ça me fait entre grincer les dents et rigoler. Parce que, enfin, il y a personne qui a réussi à me réfuter des arguments là-dessus au niveau de la physique sur les unités de mesure.
Parce que, si je dis pas de bêtises, c'est pratiquement les seuls à utiliser ces unités-là. Pour les miles,
il y a trois pays.
Cas, je sais,
il y a les États-Unis, je crois que c'est la Namibie et le Myanmar qui utilisent le système impérial. Même le Royaume-Uni est en train de passer, enfin, déjà passé depuis pas mal de temps au système métrique. Enfin, je sais pas, je leur ai dit, mais tu peux me le prendre à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Il n'y a jamais réussi à me justifier le bien fondé du système impérial. Il n'y a aucune logique dedans, ce n'est pas pratique à utiliser, tu es obligé de faire des calculs, de faire des conversions, il n'y a aucune cohérence entre une unité et une autre, et même parfois on arrive à des endroits, bon, c'est vrai qu'ici, ils te disent ça un petit peu en étant désolé, en disant « ouais, mais c'est ce qu'on a appris à l'école ». Oui, d'accord, c'est vrai que c'est ce que vous avez appris à l'école, enfin, il serait peut-être temps quand même de changer un peu de programme, parce que tu arrives au supermarché, tu vas acheter un produit, et genre, dans une catégorie de produits, tu peux avoir des pommes de terre qui vont être vendues en livres et des pommes de terre qui vont être vendues en onces. Mmh. Et dis-moi, pour le même produit, tu as deux unités différentes. Et quand tu vas chez le médecin où ils te prennent tes variables, enfin ta taille, ton poids et compagnie, la taille d'un être humain, c'est calculé en pieds et en pouces. Alors que tu vois que le pied, ce n'est pas un multiple des pouces, c'est quand même vachement pratique pour noter les trucs. Et quand tu dois faire les conversions après, c'est une horreur comme truc. Le poids en livres, c'est pareil. Et par contre, pour l'histoire de cuisine, moi je cuisine pas mal, et tout ce qui est recettes de gâteaux, compagnie, c'est ils font ça en cups. Alors les cups, t'as rien de moins précis pour faire de la pâtisserie. Et c'est donc clair. Moi, soit c'est je prends des recettes américaines où je dois tout convertir avant en grammes, ou directement je prends mes bouquins de cuisine française. Et là, t'as vraiment besoin, quand tu fais de la pâtisserie, t'as besoin d'un peu de précision, et je fais tout ça en grammes, en millilitres, et ça marche mieux. C'est vrai que ça me fait relativement hurler, parce que nous, c'est quand même une boîte allemande dans laquelle je travaille. Tous les dessins, les plans de pièces sont écrits en millimètres, et il y a encore des gens dans les départements ici qui trouvent le moyen de te parler en pouces ou en... Ouais, c'est en pouces qu'ils utilisent pour les pièces. Ça fait c'est un peu difficile à voir pour se mettre tous au même niveau, quoi.
Ouais, ça, j'arriverai jamais à m'y faire. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça avec lesquels tu as eu du mal à t'adapter, même après quelques années ?
Alors, il y a un truc, ça m'a fait un peu couiner dès que je suis arrivé là, parce qu'au début, je pensais que c'était peut-être une personne, pas dire mal éduquée, mais ouais, sans beaucoup d'éducation, de politesse ou autre. Mais ici, il y a pratiquement tout le monde qui dit, quand ils sont en train de parler d'un groupe, de quelque chose qu'ils ont fait en famille et tout, c'est systématiquement « moi » et mon ami machin. Uh-huh. Comment on m'a toujours dit, c'est tu dis toutes les personnes du groupe et tu termines par toi pour des histoires de courtoisie. Et,
ah oui, bien sûr. Ouais, oui.
Ici, ils sont tout le temps à dire moi et mon frère, moi et ma belle-sœur, moi et mon chef. Et c'est vrai qu'à chaque fois quand ils disent ça, ça fait. Et pourtant, c'est pas une histoire de manque de politesse, parce que c'est des gens qui sont extrêmement polis et tout. Et il y a aussi autre chose qui m'avait vachement surpris au début. C'est ils reculent devant rien quand ils doivent te faire un commentaire positif, je sais pas, sur ta façon de t'habiller ou autre. Et quand je vais à l'usine maintenant avec la pandémie, avec le Covid, on a des contrôles de température à l'entrée du parking. Et donc tous les jours, même deux fois par jour, quand je rentre à la maison après pour déjeuner à midi, quand tu reviens l'après-midi, ils te refont le même contrôle, c'est qu'ils posent une série de questions sur Si on a été en contact avec une personne qui a eu le Covid dans les dernières deux semaines, si on a des symptômes, machin, enfin, ils prennent aussi la température. Et systématiquement, l'infirmière qui nous fait les contrôles, parfois, il y en a d'autres qui les changent d'une semaine sur l'autre, à dire « Ah, oh, j'adore ton chapeau, oh, ben, j'aime bien ton style, j'aime bien ta chemise, j'aime bien ci, j'aime bien ça. » Et même dans le bureau, il y en a qui me disent ça. Une fois, je suis arrivé avec un pantalon avec des bretelles, une chemise à carreaux, et elle m'a dit « Ah, j'adore ton style, c'est original, tout ça. » Et c'est les deux que personne ne te dirait ça en France, ou voir si
ouais, c'est clair.
En Espagne, si tu as un homme qui va faire un commentaire à une femme en disant bah, « t'as une très jolie jupe et tout », sauf si vraiment il y a beaucoup de confiance, ça va directement être classé harcèlement sexuel ou autre. Et ici, c'est vrai qu'ils sont pas très… Ils n'ont pas beaucoup de frein quand ils doivent te faire des commentaires sur ouais, ta façon de t'habiller ou ta voiture ou autre. Ouais, plein de choses comme ça. Ils font pas mal de commentaires. En Espagne, je n'aurais jamais entendu ça. On va dire.
Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai vécu aussi. C'est même agréable, en fait. Les gens qui nous complimentent, on n'a pas l'habitude. Quoi.
Oh ouais, c'est ça. Tu vas dans un magasin et à dire « Oh, j'adore tes chaussures, où est-ce que tu les achètes ?» Une fois, ben, c'était au supermarché, c'était même pas je n'ai pas été faire un défilé de mode ou autre, et j'avais des pompes, c'était des Adidas, le modèle le plus courant d'Adidas que j'avais acheté il y a quelques années, c'était même pas en plus neuf, elles avaient genre 3-4 ans, et il ouais. Y a un gars qui est arrivé, il m'a dit « Ah, oh, j'adore tes chaussures, tu fais du skate ?» Non, je ne fais pas de skate. Fait, ah, parce que c'est les chaussures de skate. Ah, je les adore, elles sont vraiment géniales. J'ai regardé en bas, j'ai dit peut-être que je m'étais planté, j'avais dû mettre une paire de pompes que j'avais oublié et tout. Ah bon, merci, c'est gentil. Et en fait, c'est ça pour tout. Quoi. Les chapeaux, les chemises, c'est ouais, des commentaires un peu tout le temps. C'est sympa comme truc. On n'est pas habitué quand on vient d'Europe.
Truc qui n'a rien à voir, j'ai oublié de te demander. Quand tu es arrivé aux États-Unis, j'imagine que tu parlais déjà anglais.
Ah oui, c'est indispensable.
Tu avais appris à parler anglais pendant tes études
ou... Bah disons que comme à peu près tout le monde, j'ai appris pendant les études. Quand je suis parti en Suède, alors c'était la deuxième année d'école d'ingénieur. Donc quand je suis parti en Suède, je devais avoir, on va calculer, on va dire 7 ans, 8 ans, on va dire 8 ans d'anglais avant. Et parce qu'évidemment, là-bas, les cours, ils étaient déjà dans un système un peu différent du nôtre. C'est-à-dire qu'il y avait, dans la même université, une université suédoise pourtant, il y avait des cours qui étaient dispensés en suédois et des cours qui étaient dispensés en anglais. Et il n'y avait aucune logique là-dedans. C'était quand tu t'inscris pour un cours, bah, ils te mettent sur la page internet du cours. Bah, ce cours-là, il est donné en suédois. Ou... Moi, pendant ce temps-là, j'étais assez curieux concernant la langue suédoise, et j'avais des amis de la famille en Norvège, j'ai dit, bon, je vais m'inscrire à des cours de suédois, je vais apprendre le suédois. Donc, j'ai dû, à la fin, suivre des cours. Il y avait quelques cours de physique qui étaient donnés en suédois, mais le reste du temps, c'était en anglais. Et c'est vrai que quand on habite dans un pays où tout le monde parle anglais, où on parle anglais 24 heures sur 24 et tout, je trouve qu'on progresse beaucoup plus. Et j'ai dit ça quand je donnais des petites présentations dans mon école après être revenu de Suède, où j'avais dit aux gens, il y en avait quelques élèves qui n'étaient pas très chauds pour aller dans un pays où on allait parler anglais et tout, je dis, t'emmerde pas, en 3 mois, quand tu parles anglais toute la journée, je crois qu'on apprend plus que pendant 3 ans dans une salle de classe, devant un tableau. Absolument. Et à gratter une feuille. Et ça, c'est vrai que quand j'étais en Suède, mais je m'en suis vraiment rendu compte. C'est en l'espace de 3-4 mois où tu parles anglais toute la journée, tu t'améliores vachement. Pour parler après avec les Suédois, moi j'avais appris le suédois, mais ils enseignent les langues là-bas à un niveau relativement hallucinant. C'est-à-dire qu'au bout de 5 mois, j'étais capable d'écouter la radio, lire un journal, regarder la télévision, discuter, aller faire mes courses, discuter avec des Suédois. Et après, le reste des gens qu'on avait, c'est-à-dire tout le groupe des Erasmus et tout ça, bon, c'est pareil qu'ici dans l'usine. On avait des Allemands, des Polonais, des Indiens, des Chinois, des Espagnols, des Portugais. Il y avait un peu tout et n'importe quoi. Donc, avec eux, on parlait en anglais. Et donc, ça permet aussi de monter le niveau. Et le reste du temps, je suis arrivé à me débrouiller à peu près en suédois. Et quand je suis arrivé ici, c'est vrai que je venais depuis... Ça faisait 13 ans que je travaillais dans ma boîte en Espagne. Et comme c'est un groupe, multinationales avec des usines un peu partout, on était tout le temps en contact avec soit des fournisseurs à l'étranger, alors ça peut être des fournisseurs qui peuvent être en Pologne, en Italie, en Chine, dans le nord de l'Afrique, on avait aussi des fournisseurs au Maroc. Et donc c'est vrai, quand on est dans ce genre d'entreprise, ce genre de groupe, c'est tous les jours pendant, on va dire, au moins 2 heures à parler en anglais. Enfin, moi, en l'occurrence, je faisais des mélanges entre l'espagnol, c'était quasiment 98% du temps. Mais dès qu'on a appelé en Allemagne, c'était soit un petit peu en allemand ou en général en anglais. Et c'est vrai que ça aide à maintenir toujours le rythme. Et après, quand je suis arrivé ici, c'est vrai que ça m'a pas trop demandé d'efforts, parce que ça faisait des années que toute la télévision, le contenu que j'avalais de télévision, de programmes comme ça, c'était des trucs que j'avais sur YouTube ou des extraits d'émissions de télévision américaines, des shows américains et tout ça. Et c'est vrai qu'à force, pendant des années de regarder ce genre de programme de télévision en anglais, maintenant je fais même plus gaffe de savoir en quelle langue je suis en train de regarder, ou même si je dois mettre des sous-titres ou autre. Et le jour où j'ai pris l'avion, quand j'ai décollé de Madrid pour venir m'installer ici, j'ai dit bon, on va faire l'épreuve du feu, et je me suis mis dans l'avion. Il y a 8 heures de vol entre Madrid et Charlotte. Et je vais mettre un film américain sans sous-titres, voir comment ça va passer. Et en fait, j'ai regardé un film complètement en anglais et c'est passé tout seul. Et c'est vrai qu'ici, pourtant, il y a des années, j'avais un peu l'idée, l'image que l'anglais américain était beaucoup plus difficile à comprendre que l'anglais britannique. Et en fait, après avoir vu pendant tant d'années des émissions américaines à la télévision, sur YouTube, finalement, ça se comprend très bien. Alors après, il y a toujours des gens ici qui sont un peu de la campagne, et ça peut être un peu compliqué de les comprendre, mais en général, ça passe, mais comme une lettre à la poste. Je n'ai pas eu trop de problèmes là-dessus. C'est peut-être un petit peu plus difficile au téléphone, quand on ne peut pas lire sur les lèvres des gens, mais en général, quand on a la personne en face de soi, ça passe crème.
Tu t'es senti comment la première fois que tu as posé pied aux États-Unis? Enfin, tu avais déjà voyagé avant, mais quand tu es arrivé à Charlotte, tu commences cette nouvelle étape de ta vie, tu es dans un nouveau pays. Comment tu t'es senti?
Ben, en fait, c'est vrai que si ça m'était arrivé genre 10 ans avant, je pense que j'aurais un peu paniqué et ce que ça m'est arrivé quand j'étais parti en Suède, je me suis dit, quand je me trouvais dans l'aéroport, dans la salle d'embarquement, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je vais faire? C'est peut-être allé super vite. Et quand je suis arrivé ici, c'était à peu près pareil, parce que ils m'ont donné la réponse au mois d'octobre 2018, je crois, septembre-octobre 2018, comme quoi ils m'offraient le poste ici aux États-Unis. Et je suis parti, le vol, c'était le 3 avril 2019, donc six mois après. Et c'est vrai que quand j'ai atterri à Charlotte, toute ma maison avait été empaquetée dans des cartons et tout ça, et c'était parti dans un container pour envoyer ça par bateau pour le déménagement. Et moi, j'ai pris mon avion avec ma petite valise, avec des fringues pour un mois, le temps que le reste de mes armoires et mes meubles et tout ça arrive. Et c'est vrai que j'avais calculé comme c'était la première fois que j'arrivais avec visa aux États-Unis. L'année d'avant, j'étais allé en Californie, mais c'était avec un ESTA. Donc là, il n'y a pas trop de contrôle. Là, je m'étais dit, tout le monde m'avait dit, même sur des pages internet de gens qui avaient eu cette expérience-là, ils avaient dit, l'aéroport dans lequel tu vas arriver, ou là où tu vas poser le pied pour la première fois aux États-Unis, calcule un bon 3-4 heures minimum pour faire toutes les formalités d'immigration et tout ça. Donc moi, je m'étais dit, je vais calculer un layover je crois que c'était 4h30 ou 5h pour mon vol vers New Bern. Et donc, je suis arrivé un petit peu avec comme une fleur, en disant, bon, on va voir combien de temps ça va durer. Et en fait, ça m'a pris 19 minutes de faire tous les contrôles.
Ah ouais.
Quand on arrive avec un visa L1, c'est des visas où ils savent que derrière, il y a une entreprise qui sponsorise. Ça a été visé par un officiel de l'immigration à l'ambassade des États-Unis dans un autre pays. Donc, ils sont à peu près en confiance. Donc, ils posent à peu près les questions. Combien de temps tu vas venir ici, où est-ce que tu travailles, quelle est ta profession, où est-ce que tu vas habiter, chez qui tu vas aller pour l'instant, machin, enfin, les questions un peu bateau qu'ils posent tout le temps. Et puis finalement, après, j'ai dû attendre pendant 4 heures dans l'aéroport de Charlotte, le temps que en attendant mon vol pour New Bern, c'était la destination finale. Et là, tu as quand même pas mal de temps de te poser des questions, de savoir vraiment, mais qu'est-ce que tu fous là et dans quoi tu t'es embarqué? Parce que là, c'était vraiment le truc où tu te dis, il n'y a pas de marche arrière. Toute ta maison a été emballée dans 25 cartons et c'est parti sur un bateau. Et là, tu es ici, tu pourras te commencer une nouvelle vie. Et c'est vrai que c'est un peu. Bon, maintenant, je le prends beaucoup mieux que si ça avait été genre 10 ou 15 ans en arrière. Non, c'est vrai que j'ai aucun problème pour ça, pour m'adapter. J'arrive ici et je parle assez rapidement avec les gens, soit les voisins ou l'agent immobilier, ou même les collègues de l'usine. C'est pourtant des gens que je n'avais jamais vus avant, parce qu'il y avait une époque, quand toi, tu allais dans une de nos usines en Allemagne et tout, bah, la personne qui allait déménager, tu l'envoyais 2 semaines dans l'usine en Allemagne pour connaître un peu les collègues et tout ça. Et après, il revenait en Espagne. Et puis finalement, quand tout le déménagement était mis en concret, on l'envoyait définitivement. Et ben là, dans mon cas, j'ai fait quelques entretiens téléphoniques avec celui qui allait être mon chef, avec le chef du département. Et sans plus, je suis arrivé ici vraiment sans connaître personne. Mais enfin, j'ai fait mon trou très, très vite. Et les gens étaient assez, assez ouverts. Et c'est vrai, comme c'est une entreprise où il y a énormément de gens de plein de nationalités différentes, j'étais pas le cas isolé de la personne qui vient d'Europe pour aller dans le département. Il y a des gens d'un peu partout, et donc ils savent ce que ça veut dire et ils aident quand même pas mal.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué visuellement? Je pense par exemple, moi, la première fois que j'ai été, c'est les voitures, les routes par exemple, c'est le genre de choses qui m'avaient marqué les premiers jours, voire même les premières heures. Qu'est-ce qu'il en est pour toi?
Alors visuellement, c'est vrai que ici un truc qui me surprend quand même pas mal, c'est que toutes les baraques sont pareilles. Et désolé pour ça, mais c'est vraiment de la construction de merde. Il y a une maison qui est en train de se construire juste à côté de chez moi. Ce n'est que du bois. Alors ici, on est sur la côte est de la Caroline du Nord. Il y a de la forêt partout. Je crois qu'il doit y avoir plus de forêt que même en Norvège ou je sais pas où. Donc évidemment, le bois est long. Ça rien leur coûter, donc ils font toute leur maison en bois. Et comme c'est un endroit pareil que la Floride, où tous les ans il y a des ouragans, tous les ans il y a des désastres, des inondations. Évidemment, une maison en bois mouillée, si à un moment ça finit par pourrir, on est obligé de défoncer le mur, refaire un mur derrière. Quand les arbres se cassent la gueule sur les toits, un toit en bois, ça tient pas beaucoup la route, on va dire, avec une branche de 200 kilos. Et c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'après, il y a un orage qui passe, un ouragan, le gros, là, qu'on a eu il y a quelques temps, c'était fin 2018, l'ouragan Florence. Il y a encore des maisons en 2021 qui sont en réparation depuis l'ouragan Florence, tout le centre de New Bern, où il y allait en barque, enfin, c'était tout inondé. Et ils continuent encore à construire avec du bois. Et les maisons, j'ai l'impression qu'ils doivent avoir un catalogue qui est commun à toutes les villes dans la région, et je pense à la d'abord préparée dans les autres États des États-Unis, où ils choisissent sur catalogue la baraque qu'ils veulent. Et en fait, tu vois le patron qu'il y a au sol de la maison, mais c'est la même chose tout le temps. Et tu vois des photos sur des pages web de location de maison, d'achat de maison et tout ça. Et tu vois les photos des cuisines, les photos des chambres, des salles de bain et tout ça. Elles sont toutes pareilles. C'est-à-dire les baignoires sont toutes pareilles. C'est toujours la baignoire en fibre de verre moulée qui en un seul bloc, il y a la baignoire, les robinets et le mur du fond. Les cuisines, elles sont à peu près toutes pareilles, toutes organisées pareilles. Toutes les chambres sont pareilles. Et c'est vrai qu'il y a le ventilateur dans toutes les chambres, la pompe à chaleur dehors pour chauffer la maison, la cheminée au butane pour faire donner un peu un air rustique à la baraque. Mais elles sont toutes pareilles. Et au niveau architecture, il y a un truc qui m'a vachement choqué. Dans la ville où je suis, on a entre 30 et 33 000 habitants. J'ai compté un jour où je m'embêtais sur Internet, il y a 104 églises dans la ville.
Ah ouais.
Et c'est vrai que c'est des églises avec toutes les branches fantaisistes, imaginables des chrétiens. Alors, t'as les protestants, t'as les évangélistes, l'église du Christ Saint-Sauveur, l'église de je sais pas quoi des derniers jours, l'église du bras de Dieu. Enfin, il y a des églises un peu partout. C'est des églises, quand on les voit ici, enfin, pour nous, avec la mentalité espagnole ou enfin, européenne en général, tu te dis, mais c'est des hangars à tracteurs, c'est des maisons, genre, ils prennent quelques barres de bois, ils mettent un peu de placo plate sur les murs et tout ça, ils mettent une croix sur le dessus et c'est bon, c'est une église. Quoi. Dans la ville où je suis, dans le centre-ville, il y a trois églises qui sont des églises 18e siècle ou 19e siècle, sont faites en briques. Elles sont, c'est un autre style. C'est un style qu'on n'a absolument pas en Europe, mais elles sont bien, elles sont sympas, elles sont jolies. Mais le reste des églises qu'on a tout autour d'ici, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films avec le prêtre qui va faire ses prêches avec son gospel et compagnie. C'est un peu ça, mais les églises sont vraiment moches. Quoi,
Est-ce que tu as beaucoup pu voyager aux États-Unis depuis que tu y es?
Ben, malheureusement, non, parce que je suis arrivé en fait en avril en 2019. L'été 2019, j'étais entre l'installation dans la nouvelle maison, faire un peu mes marques au travail et tout ça. Puis à la fin de 2019, je suis reparti en Espagne. J'étais pendant 2 semaines pour les vacances, pour les amis et tout ça. Après, je suis revenu ici. Et le dernier voyage que j'ai fait, c'était un gros voyage pour l'entreprise, où je suis passé en France, en Allemagne. Et après, ils m'ont envoyé à Las Vegas pendant une semaine. Et depuis que j'ai pris l'avion de retour de Las Vegas à New Bern, j'ai pas pris un seul avion, j'ai pas voyagé. Et en 2020, je suis pas sorti de New Bern. La seule excursion que je me suis permise, c'était d'aller faire un tour à Washington, voir un ami qui habite là-bas. Mmh. Et c'est à peu près tout. Et un an, j'ai pas bougé de la maison, j'ai rien fait dehors, donc c'est vrai que j'ai pas trop pu voyager. Quand je suis allé à Las Vegas, j'en ai profité pour aller voir le barrage d'Hoover qui est à 1 heure de route de Las Vegas. Mm-hmm. C'était vraiment sympa, mais là j'attends de voir quand est-ce qu'on va pouvoir voyager. Enfin, c'est pas quand est-ce qu'on va pouvoir, c'est quand est-ce que je vais vouloir voyager, parce que on peut prendre des avions un peu partout. Les tarifs sont relativement bas maintenant. Là, je regardais l'autre jour, il y avait un aller-retour depuis Charlotte jusqu'à Madrid pour moins de $700. Toutes taxes comprises. Donc c'est vrai que les tarifs sont vraiment bas maintenant. Mais le problème, c'est que si je prends l'avion pour sortir des États-Unis, après, je peux avoir des problèmes pour y re-rentrer. C'est pour ça que je ne peux pas aller pour l'instant en Europe, parce que si on met le pied en Europe dans les 14 jours précédant l'entrée aux États-Unis, on va se faire jeter. Donc pour l'instant, peut-être que tu es en train de me poser des questions, voir si j'allais faire quelques jours à New York ou aller au Mexique ou à Montréal. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas trop au goût du jour. Bon, là, en revanche, là, au niveau du Covid, c'est vrai que ça bouge quand même pas mal, et surtout depuis le changement d'administration. Mmh. Et j'ai pu avoir la première dose du vaccin ce matin. C'est vrai que ça, ici, en Caroline du Nord, c'est très, très bien géré. C'est pas une gestion fédérale ou au niveau global du pays comme on peut avoir en Europe. C'est chaque État fait un peu sa sauce comme il l'entend, et c'est vrai que entre le gouverneur de Caroline du Nord et la secrétaire générale, comment on appelle ça, du service de santé de Caroline du Nord, c'est très très bien géré. C'est une médecin, et là en ce moment ils sont en train de vacciner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est vrai que ça va relativement vite, quoi. Beaucoup plus vite qu'en Europe, peu importe le pays.
Est-ce que tu vois des grosses différences entre l'endroit où tu vis et l'endroit que tu avais visité en tant que touriste? Déjà parce que c'est deux endroits complètement différents, la Californie et la Caroline du Nord, mais aussi parce que quand on est un touriste et quand on est un habitant, c'est pas du tout la même expérience. C'est quoi les grosses différences entre ces deux choses-là?
Alors déjà, la densité de population. La Caroline du Nord, on est à peu près dans la taille, dans l'ordre de grandeur de la Belgique. Et on a, je crois que c'est un tout petit peu plus de 10 millions d'habitants. Donc évidemment, dès que tu sors d'une ville, petite ou grande, tu es dans le désert. Enfin, ce n'est pas le désert genre le Nevada, mais c'est la forêt. Enfin, la forêt, des marécages partout. Mais c'est vrai que la densité de population est relativement basse. Et quand on va dans les maisons, c'est vrai que pratiquement toutes les maisons ont des jardins. Il n'y a pas de gratte-ciel ou de bâtiment à plus de 2 étages. C'est relativement bas, il n'y a pas beaucoup de densité. Ce qui est peut-être aussi une raison pour laquelle il n'y a pas eu trop de contagion du Covid dans ces coins-là. C'est vrai que l'autre côté que j'avais visité il y a quelques années, c'était la Californie. On a fait avec mon pote San Diego, Los Angeles, San Francisco. C'est pas trop comparable à ce qu'on a en Caroline du Nord. Une fois, on a voulu aller sortir de Los Angeles pour aller faire un peu de tourisme dans le coin. Juste sortir de l'agglomération de Los Angeles et sans embouteillage, hein, c'était 1h45. Et c'est vrai que là-bas, c'est des routes à 8 voies ou 10 voies, et les 10 voies sont occupées, tout le monde roule à 100 km/h, mais ça, tout est chargé. Et c'est vrai que ça met quand même beaucoup de temps, alors qu'ici, en 2 secondes, on sort de la ville, et c'est quand même, il y a des bonnes différences au niveau de la densité de population entre la Caroline du Nord et la Californie, qui est une des zones les plus denses des États-Unis.
Tu étais resté combien de temps en Californie ?
En Californie, on a fait 15 jours, je crois. On a fait quelques jours à San Diego, quelques jours à Los Angeles, quelques jours à San Francisco. Et après, on est reparti d'Oakland à Madrid. Mais c'est vrai que quand on arrive depuis l'Europe, c'est la première fois qu'on voit Los Angeles, ça fait un choc. Mais ouais. J'étais relativement déçu de Los Angeles. La ville que j'ai préférée, c'était clairement San Diego. J'ai trouvé ça plus joli, plus propre et avec une belle histoire à voir dans les musées et compagnie. Mais Los Angeles, ouais, à part le Sunset Boulevard et le Hollywood Boulevard et tous les trucs qu'on voit à la télévision dès qu'il y a des galas d'artistes, les Oscars et compagnie, c'est vraiment des endroits mythiques. Quand on se balade dans des rues, nous on était dans un appartement sur Santa Monica Avenue, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté en 1955. Et que rien n'a bougé, quoi. C'est les diners, tous les restaurants de hamburgers et compagnie, c'est le style des années 50-60. Les maisons, elles sont dans le style des années 60. C'est pas un truc, c'est pas genre le glamour et le bling-bling que tu peux voir dans les films ou dans les reportages à la télévision. Quoi. Et c'est vrai, faut aller le voir pour le croire, parce qu'au début, c'était un peu bizarre à croire, mais ouais, c'est un truc qui change. En revanche, là, quand je suis arrivé en Caroline du Nord, c'est où tu es dans l'Amérique profonde avec une population bien différente. C'est beaucoup moins, on va dire, moins bling-bling, moins m'as-tu vu, on va dire. Ça change quand même pas mal.
C'est quoi les choses qui te manquent le plus de l'Europe, de l'Espagne, du coup, pour toi ?
Alors là, on ne va pas faire de mystère. On va parler de la bouffe. C'est à peu près la même chose pour tout le monde. Les fromages, il y a quand même quelques produits d'Europe qui sont trouvables dans les supermarchés. Il y a quelques supermarchés, il y en a un ici qui est relativement bien. C'est assez cher, mais ils ont des bons produits là, ça s'appelle Harris Teeter. Mais après, c'est des histoires de douane où ils laissent pas rentrer des produits crus, genre de la viande crue, des fromages au lait cru et tout ça. Ils laissent pas rentrer sur le territoire des États-Unis. Non, c'est vrai que quand tu vas avoir un fromage genre un camembert, des trucs comme ça, on va pas les trouver. Et le produit phare de l'Espagne, le jambon ibérique, impossible, pratiquement impossible d'en trouver, parce qu'il faut que l'entreprise espagnole qui produit les jambons aille au département de l'agriculture et de la sécurité alimentaire aux États-Unis pour avoir toutes les bénédictions de tous les tampons et compagnie. Et c'est vrai que ça fait c'est un peu dur pour avoir ce genre de choses. Mais moi, c'est principalement ce qui peut me manquer ici, ça peut être la bouffe, un système de santé qui marche. Parce que là, c'est vrai que c'est aussi une catastrophe, le système de santé. Au début, je suis arrivé sans avoir beaucoup d'a priori, en me disant, bon, allez, on va pas se focaliser là-dessus, on va dire que ça peut marcher, parce que sinon, comment est-ce que des millions de personnes pourraient vivre avec ce système-là et tout. Et après 2 ans, je vais pas non plus très souvent chez le médecin, je suis allé peut-être 2 fois. On se rend vraiment compte que ça marche pas comme truc. Les hôpitaux facturent des trucs de taré. En Espagne, quand je me faisais vacciner contre la grippe tous les ans, bon, c'était soit payé, en général c'était payé par la sécurité sociale, mais pour aller faire ça avec mon médecin de confiance, j'allais à la pharmacie, j'achetais la seringue et je téléphonais à ma cousine et je faisais l'injection juste après. La seringue coûtait, avec la dose de vaccin, entre, selon les pharmacies, entre 7 et 10, 11 euros à peu près. Le même vaccin ici, il est facturé par l'hôpital à mon assurance 73 $.
Ouais.
Tu peux me dire que les coûts de fabrication sont un petit peu plus élevés aux États-Unis qu'en Europe, mais enfin, entre 10 euros et 73 $, il y a quand même des gens qui s'en mettent un peu plein les poches. Et en fait, on s'en est rendu compte quand tu vas à l'hôpital, ou même ce matin quand je suis allé au centre de vaccination pour le Covid, ils ont tellement d'argent, ils doivent facturer énormément d'argent aux assurances, Puis ils ont des gens pour tout. Il y a de la main-d'œuvre pour tout. Tu as la personne pour te tenir le stylo, la personne pour te dire bonjour
Tu
rentres. Tu as la personne pour te prendre tes données personnelles à la réception. Après, tu as les deux infirmières pour t'accompagner au box quand on va prendre la température, machin. Le médecin qui va venir. Enfin, c'est au niveau de la main-d'œuvre, je comprends pourquoi ils facturent autant avec autant de main-d'œuvre. Et ce matin, on est arrivé sur le parking. Pourtant, c'est une petite ville dans laquelle j'habite. Il y avait quoi? Il y avait 7 ou 8 personnes pour garer les voitures. Il dit, mais t'as pas besoin, tu me dis.
Ah ouais, carrément.
Pour se garer là, t'avais des gens qui faisaient des signes comme si t'étais sur un parking pour un festival ou quand tu vas le garer pour aller voir le Super Bowl. Et t'avais 8 personnes sur le parking en me disant, vous tournez à gauche, vous garez ici. Quand t'arrives, il y a une personne pour te dire bonjour, pour t'ouvrir la porte, une autre personne pour te prendre ta température, une autre personne pour te faire la première partie du check-in, une autre personne pour te faire une autre partie du check-in. Et après, tu rentres dans la salle pour te faire vacciner. Et je sais pas, sur chaque table, t'as 3 personnes par patient qui va se faire vacciner. Et c'est comme ça pour tout. Mmh. Et quand je suis allé chez le dentiste, c'était la même chose. Quand tu vas au centre, l'urgent care, c'est la même chose. Et c'est vrai que ça change pas mal, quoi.
Ouais, en fait, je pense que c'est pour ça aussi que le niveau de chômage peut être si bas aux États-Unis.
Bah oui.
J'ai vraiment l'impression qu'il y a des boulots pour tout le monde, quoi.
Ils donnent un boulot. S'ils ont besoin d'avoir une personne pour appuyer sur le bouton de la machine à soda au McDonald's, ils vont payer une personne. Alors, cette personne-là, elle va gagner peut-être 100 $ par mois, mais elle a un boulot. Alors, tu dis, oui, on enlève cette personne-là des statistiques du chômage. Après, si c'est un modèle à suivre ou pas, ça, c'est un autre débat. Parce qu'après,
moi, je crois que
j'en parlais pas mal quand je discutais avec des copains quand je suis arrivé ici où je voyais les modalités de mon assurance maladie. Et je vois ce que j'avais en Espagne. En Espagne, c'est très, très similaire à ce qu'il y a en France au niveau de la sécurité sociale. Et je leur avais dit, oui, ici, tu payes une assurance privée ou toi, tu peux choisir la couverture que tu veux. Alors qu'en Europe, c'est en général des couvertures universelles, c'est-à-dire que tout le monde paye la même chose et tout le monde est couvert. Et ici, en fait, quand tu vois ce que je paye par an à l'assurance et ce que je payais quand j'étais en Espagne à la sécurité sociale, c'était pas si éloigné que ça, en fait. En Espagne, je devais payer, dans les 400 de ma poche, dans les 400-500 euros par mois d'assurance. Mais c'est des trucs que tu vois pas passer parce qu'ils te l'enlèvent avant que ta feuille de paye soit virée sur ton compte. Donc, on te donne 100 sur ton compte et t'as 30 qui ont été enlevés pour envoyer à la sécurité sociale. Donc, tu vois pas passer. Ici, tu vois un peu plus passer aux États-Unis. Mais c'est le système, comment ça fonctionne avec les deductibles, les out-of-pocket, et les réseaux et compagnie, ça peut faire très mal. Il y a une anecdote que m'a raconté une collègue de bureau qui est juste derrière moi dans le bureau. Et elle a un ami qui, il y a quelques années, c'était par choix personnel, il voulait économiser de l'argent, il ne voulait pas payer d'assurance maladie. En Espagne, c'est impossible. À partir du moment où tu as un travail qui n'est pas au noir, tu cotises à la sécurité sociale et t'es couvert comme n'importe quel autre. Et cette personne-là avait décidé pour économiser peut-être, je sais pas, $150 par mois, de ne pas payer l'assurance. Et un jour, il est tombé dans les pommes au bureau. Alors, évidemment, c'est vrai que c'est dans les pommes, c'est un petit peu scandaleux comme truc. C'est pas grave, c'est pas un truc sérieux, mais ça peut faire peur. Et donc, ses collègues ont appelé une ambulance. L'ambulance est venue chercher le mec, ils l'ont envoyé à l'hôpital et ils l'ont gardé en inspection pendant une journée dans l'hôpital.
Ouais.
Deux ans après, le type était encore en train de payer la facture.
Ah ouais.
Pour être une journée dans l'hôpital, ça lui a coûté dans les $30,000 à peu près.
Waouh.
En sachant qu'une bonne partie c'était de l'ambulance. Et donc depuis le temps, il continue encore à le payer. Depuis, il a pris une assurance, mais il disait si jamais je retombe dans les pommes par une baisse de tension ou quoi que ce soit, surtout n'appelez pas l'ambulance, vous me laissez là. Et c'est vrai que c'est une mentalité que beaucoup, beaucoup de personnes comme ils ne savent pas combien ça peut leur coûter d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui refusent d'aller se faire soigner, alors que tu pourras avoir des soins préventifs pour éviter un désastre postérieur. Mais les gens disent « Oh non, je ne veux pas à l'hôpital, ça va encore me coûter une fortune ». C'est vrai que quand tu n'as pas d'assurance, tu vas dans une… ils appellent les emergency rooms, les urgences comme on a en Europe, c'est directement $500 d'entrée de jeu. Donc, tu as intérêt à avoir une bonne assurance derrière qui te le couvre. Mais après, les assurances aussi, ce qu'elles font, c'est comme elles jouent sur les deductibles. C'est-à-dire que moi, sur l'assurance que j'ai, les premiers $1,500 de facture, à l'année, c'est moi qui vais les payer. C'est une franchise.
Ah oui.
Et donc, après, tu peux avoir l'option, je crois que c'est le PPO, qui est découvert depuis le début. C'est en gros, tu as un déductible de $50. Tu payes de ta poche, après tout le reste, c'est couvert par l'assurance. Mais après, c'est pas le même prix par mois. C'est-à-dire que moi, je paye 130 ou $140 par mois. Les PPO, c'est dans les 280 ou $300 par mois. Mais tu es couvert tout le temps. Donc, c'est un petit peu un pari que tu vas faire sur ta santé. Savoir que l'année suivante, tu vas pas avoir de problème de santé. Parce que si t'as, comme tu peux pas les changer, les options, tu peux les changer qu'en novembre. Si tu fais ton mauvais choix et que tu as un coup de malchance, ça peut faire très mal au compte en banque.
Ça, je pense, fait vraiment partie des mentalités américaines, parce qu'il y a plein de gens, c'est plus on va s'occuper de nous-mêmes plutôt que, comment dire, c'est un peu plus individualiste, je dirais, entre guillemets.
Alors, on a vu ça pas mal, il y a 4 ans ou 5 ans, quand Obama avait fait l'Obamacare, où il y a plein de gens qui avaient leurs assurances depuis des années, leurs assurances privées, tout ça, en disant il va mettre l'Obamacare, donc on va perdre nos couvertures, on va perdre nos avantages, tout ça. C'était absolument pas vrai. Simplement dire, toi, tu vas garder ta couverture comme tu l'avais depuis le début. Simplement, Daniel, qui est ici en face, qui n'a jamais pu avoir d'assurance parce que soit il pouvait pas travailler, soit il travaillait pas, il pouvait pas travailler, ou il n'était pas éligible à je sais pas quoi, ou son entreprise ne lui donnait pas une bonne assurance et tout, ben il dit, ben lui, il va pouvoir avoir une couverture universelle, au moins pour lui assurer de ne pas crever s'il se fait écraser par une voiture sur le bord de la route. Ben personne ne va le laisser là sur le bas-côté. Quoi. Mais ça a été un peu détricoté depuis que Trump était arrivé. Là, ils sont en train de revenir un petit peu dessus. Mais c'est vrai que c'est un système. Les quelques fois où j'en ai parlé avec des collègues de bureau des Américains, c'est pas non plus un sujet sur lequel ils vont être très loquaces, mais j'ai l'impression qu'ils reconnaissent quand même, quand on leur explique ce qu'il y a en dehors des frontières des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont jamais allées ailleurs que la région dans laquelle ils sont nés, et ils ont pas trop le concept de voir que tu vas en Espagne ou en France, tu trébuches sur un bord de trottoir, tu te casses une cheville, ça va rien te coûter du tout, on va pouvoir t'embarquer avec une ambulance à l'hôpital le plus proche, tu peux te faire opérer et tu vas jamais avoir la facture de ça, ça va être payé par l'assurance maladie. Ce concept-là, ils comprennent pas, ils trouvent ça bien, mais ils ont pas été très loquaces les quelques fois où j'en ai parlé avec eux. Parce que ça arrive à des moments un petit peu, des situations un petit peu extrêmes. J'ai un collègue de bureau qui m'a dit il y a cette semaine, il me demandait des conseils pour savoir comment fonctionnait l'assurance maladie en Espagne. J'ai dit, en Espagne, tout est couvert, c'est une couverture universelle, enfin, tu payes rien. Il dit non, parce que mon fils, il est militaire, il est dans la base de Rota, dans le sud, à côté de Cadix. Et il s'est cassé une jambe, et donc ils ont dit qu'à l'hôpital de la base militaire, ils ne pouvaient pas l'opérer. Et donc il est dans un hôtel en train d'attendre de voir quand est-ce qu'il allait pouvoir avoir un vol pour le rapatrier en Virginie, pour l'opérer dans un hôpital militaire aux États-Unis. Espagne, il y a des hôpitaux, qu'il n'aille pas dans un hôpital militaire, ils n'ont pas les facilités pour te faire une opération chirurgicale de la jambe, mais à Jerez, qui est juste à côté, il y a un hôpital public qui l'emmène là-bas, ils vont lui donner une facture quand ils l'auront opéré, qui donnera à son assurance, et comme il est militaire, c'est couvert à 100%, et il n'y a aucun problème pour ça. Mais tu ne vas pas faire venir ton gosse depuis l'Espagne jusqu'aux États-Unis juste pour faire une opération de jambe. Enfin, l'Espagne, ce n'est pas le tiers-monde. Ouais. On peut opérer une jambe n'importe où en Espagne ou dans n'importe quel pays en Europe. C'est pas... Mais c'est vrai que le changement est tellement grand entre le système médical ici et ce qu'on a en Europe que parfois, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Et c'est vrai que au niveau des déplacements, je connais pas mal de personnes qui ne sont jamais sorties des États-Unis. Il y a même des gens, la seule chose qu'ils ont faite en voyage, c'était aller dans le Tennessee qui est à côté. Mais c'est vrai que tu vois, les États-Unis, c'est un seul pays, mais à la même échelle, c'est comme si on parlait en Europe de tous les pays. Chaque État, en fait, c'est un pays européen. Donc c'est vrai que nous, en Europe, il y a beaucoup, beaucoup de gens, tu vas dire, ah ben j'ai été en Hongrie, j'ai visité la République tchèque, j'ai visité le Portugal, j'ai visité l'Italie, j'ai visité la Grèce et tout ça, et tu restes dans le même continent. Ben, en fait, ici, ils font la même chose, mais en restant dans le même pays. C'est-à-dire que le mec qui est allé le plus loin, c'est celui qui est allé à Hawaï ou à Porto Rico, mais il reste dans le même pays. Après, des gens qui sont allés en Asie, en Europe et autres, il n'y en a pas quand même des tonnes. Je parle dans la région dans laquelle je suis. Hein. tu vois.
Oui, oui. À Washington. Il y en a beaucoup aux États-Unis qui n'ont pas de passeport en plus. Donc, mais le parce que c'est tellement grand qu'ils ont plein de choses à visiter.
C'est sûr.
Est-ce que tu as d'autres exemples de mentalité comme ça qui t'ont surpris, que ce soit du point de vue positif ou négatif?
Bah, j'ai quand même un truc, moi, on parlait tout à l'heure des, ouais, des voitures, c'est vrai que ça m'a beaucoup choqué au début, la taille des voitures. Et en fait, ils ont essayé parfois de me dire, ah ben non, on a ça parce qu'on est obligé d'avoir ce genre de bagnole. Je parle des trucks, hein, genre les Silverado, ouais. Et ces trucs-là. Et alors, c'est des, pour que les gens puissent bien comprendre l'idée, enfin, de l'échelle de ce genre de bagnole. En Europe, une petite voiture de tourisme, c'est, ouais, dans les 2 litres, 2 litres 2 de cylindrée. 100-150 chevaux à peu près dans ces eaux-là. Ici, les camions, c'est les plus petits, c'est 3,5 litres. Ça peut monter à 5,9 litres. Il y a des 7 et des 8 litres en V8. C'est des camions qui font entre 400 et 500 chevaux. Mmh. Et l'année dernière, j'avais fait le calcul, voir le prix de l'essence, combien ça coûtait ici. Et l'essence en équivalent, parce qu'ici, c'est en dollars par gallon, et en calculant en euros par litre, c'est à peu près dans les 40 centimes d'euros par litre d'essence. Alors, c'est vrai qu'ils essaient de le justifier en disant « Oui, mais parce que moi, j'ai mon bateau, je dois aller mettre le bateau, machin, on peut aller mettre, avec la voiture, je peux aller dans la plage, me mettre dans le sable et tout ça. » Non, tu peux te mettre sur la plage tous les 4 matins. Je dis simplement « T'achètes cette bagnole-là parce que t'as ton essence, elle est à 40 centimes d'euros le litre. » Si tu avais les prix d'essence qu'on a en Europe, en France, je ne sais pas combien c'est, mais en Espagne, c'était le diesel à 1,50€ et le samplon, ou 1,30€, on va dire, le diesel, et le samplon à 1,40€ à peu près. Si tu avais ces tarifs-là, tu ne serais pas aussi, je m'en foutiste au niveau de l'environnement et tu n'achèterais pas une bagnole comme ça. Parce que quelquefois, ils me disent, avec l'histoire des bateaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bateaux ici, comme quoi, genre, ils sont les seuls au monde à avoir des bateaux. En Espagne, il y a aussi des gens qui ont des bateaux qui peuvent les mettre dans la marina, les mettre à l'eau et tout ça. Donc, c'est vrai que pour ça, tu as besoin d'avoir tu peux avoir une voiture un petit peu puissante. Puis, en Espagne, absolument personne n'a de camion comme ça et les gens mettent leur bateau à l'eau sans aucun problème. Enfin, c'est pas... Après, tu vas sur le parking du supermarché et ça me fout hors de moi. Quand tu sais, en plus, en Espagne, non, mais en France, il y a une loi qui t'interdit de faire ça, de laisser les moteurs qui tournent et une voiture qui n'est pas occupée sur un parking, sur un trottoir et tout ça. En France, c'est interdit, tu peux avoir une amende pour ça. Bah, ici, les gens, ils arrivent au supermarché, tu as monsieur et madame. Alors, tu as monsieur qui va aller faire 2-3 courses avec son caddie. Et pendant ce temps-là, madame, elle reste dans la voiture avec le téléphone portable et le moteur allumé pour ne pas avoir trop froid. Ils peuvent rester. Là, ce matin, je suis allé faire 2-3 courses à Ristiteur. Il y avait une bonne femme derrière moi. Le temps que je descende de la voiture, je prenne mon chariot, j'aille faire mes courses, je reviens à la bagnole, la dame était toujours dans sa voiture avec le moteur allumé et le portable connecté sur la ligne cigarette. Et ça, il y en a tout le temps. Après, les voitures, elles ont toutes une télécommande pour pouvoir allumer le moteur depuis l'intérieur du bureau, de l'intérieur de la maison. C'est genre, tu as l'impression que tu es en Alaska. Je sais pas, le matin, il fait quoi? Il fait 3, 4 degrés. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais non, mais c'est un sentiment. Moi, c'est vraiment vachement choqué de pas du jugement foutisme, mais c'est j'en ai rien à cirer.
Ouais, il n'y a pas vraiment cette conscience environnementale qu'on peut avoir.
Mais absolument pas. Absolument pas. Et c'est vrai que ils ont essayé de me justifier plusieurs fois l'utilité d'avoir un camion. Et en fait, si tu vois tous les trucks qu'ils ont ici, ça sert pour aller acheter le pain et pour aller chercher les gamins au club de foot ou aller les chercher à l'école. Et c'est, quand tu achètes normalement une bagnole comme ça, c'est pour aller dans les chemins et tout ça, ils sont complètement détruits. J'avais quelques amis en Espagne qui avaient ça parce qu'ils avaient des exploitations agricoles. Donc, les bagnoles étaient complètement rayées, les pare-chocs défoncés, les roues bien pétées aussi. Mais ils utilisaient ça pour aller dans les chemins. Alors qu'ici, les voitures, elles sont rutilantes. Enfin, elles sont plus tunées avec des jantes super larges, brillantes. Tous les chromes sont pimpants, ils mettent des lumières de partout. Et toi, tu t'es pas acheté cette voiture-là pour aller faire du tout-terrain. Toi, tu t'es acheté cette voiture-là pour te la péter dans la rue. Et après, ils te mettent des pots d'échappement où tu peux mettre ta jambe à l'intérieur tellement ils sont gros, juste pour faire du bruit. Et c'est vrai que c'est une ambiance très, très, très kéké. Et j'en ai pas vu beaucoup des gens comme ça à Washington, mais ici dans le sud, il y en a partout. C'est vraiment pour prendre des photos.
Même si t'as pas voyagé énormément, bon, t'as quand même été à Washington, en Californie, etc. Est-ce que tu vois une grosse différence entre le nord et le sud ?
Ben, les grosses différences au niveau des mentalités, j'ai vu ça, parce que c'est vrai que les villes que j'avais visitées, c'est-à-dire New York, Washington et la Californie, c'est beaucoup plus progressiste, les gens beaucoup plus ouverts et c'est beaucoup moins l'ambiance un peu fermée des États du Sud. Et ici, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de genre de drapeaux de l'armée confédérée dans des maisons, un peu partout. C'est un monde, on va dire un petit monde un petit peu plus fermé quand même. Et c'est vrai que j'étais beaucoup plus agréablement surpris quand je suis allé il y a quelques semaines à Washington, où par exemple les gens étaient beaucoup plus respectueux des gestes barrières, de porter le masque. J'ai vu dans un bar un serveur qui a aimablement demandé à deux personnes qui venaient de rentrer de sortir du restaurant, enfin du bar, parce qu'elles n'avaient pas de masque. Alors que il y a quelques jours, la semaine dernière, je crois que je suis allé dans un des bars du centre ici à New Bern, et il y avait absolument personne avec un masque. Ni les clients, même pas la serveuse, rien du tout. C'est qu'ils s'en foutent complètement. Et des théories anti-masque, anti-vaccin et tout ça, ici, il y en a partout. Ouais, c'est vraiment, vraiment l'arrière-pays.
Du coup, tu as vraiment pu vivre un peu, tu as pu voir de tes yeux cette division de ces deux Amériques, quoi.
Ah oui, ça complètement. Et c'est vrai qu'ici, à part les deux grosses villes, Charlotte et Raleigh, où c'est quand même beaucoup plus progressiste, et après, au résultat des élections, c'est quand même plus démocrate dans ces villes-là, ça, tu vois quand même des grosses différences quand tu es dans ce genre de coin. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus, que genre, je vais pas aller, si un jour je vais au Royaume-Uni, je vais pas aller visiter Londres en disant que j'étais au Royaume-Uni, je préfère aller dans les petits coins qui sont pas forcément touristiques et qui ont quand même un peu plus d'attrait au niveau culturel que les autres, quoi. Dans cette région-là, là où je suis, c'est plein de petites villes, ouais, de 20 000, 30 000 habitants. Elles se ressemblent toutes et les gens qui sont dedans, sont très, très similaires quand même.
Et tu m'avais parlé aussi de cette idée, puisque tu as voyagé dans plusieurs pays, que tu as étudié en Suède, tu as travaillé en Espagne, que le fait d'aller à l'étranger comme ça ouvrait ton esprit, parce que forcément tu découvres plein de cultures. Comment est-ce que ça t'a changé toutes ces expériences?
Ben c'est vrai que ça ouvre quand même pas mal l'esprit. Bon, faut avoir quand même une prédisposition, faut être open pour aller toujours se mettre à l'étranger, sortir un peu de sa bulle de confort et tout ça. Mais ça t'oblige à faire une gymnastique du cerveau autant avec les langues, parce que ici, quand j'étais en Espagne, je parlais quasiment constamment deux, trois langues. Ici, c'est trois langues par jour, tout le temps. Et ça, que ça aide quand même pas mal l'agilité du cerveau, où tu sais que tu es obligé, tu peux pas te reposer sur quelqu'un qui va te faire les papiers pour toi, qui va aller négocier par téléphone pour pas un contrat pour Internet ou pour acheter une voiture, une moto ou quoi que ce soit. Et ça aide quand même pas mal après au niveau de la façon dont le cerveau fonctionne, de savoir se débrouiller avec des gens qu'on connaît pas, avec des cultures différentes et avec des langues qui sont pas forcément les siennes. Et c'est vrai que ça aide pas mal. Et après, ça permet aussi de relativiser quand même énormément quand t'as des petites merdes qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours. Et tu dis, mais t'es quand même passé au-dessus de choses beaucoup plus compliquées. C'est ce truc-là, tu peux, ça va pas être une épreuve de force et on va pouvoir se débrouiller sans aucun problème avec ça. Et c'est vrai que ça aide pas mal, où ça t'as beaucoup moins de petits problèmes de la vie de tous les jours, on va dire. Tu trouves plus vite des solutions pour des petits problèmes.
Et du point de vue des cultures, puisque tu rencontres des gens qui sont assez différents, qui ont grandi dans des environnements différents, est-ce que ça a un impact sur toi?
Non, sur moi, ça n'a absolument pas d'impact. Ça permet de parfois de relativiser certaines choses j'essaie toujours de faire preuve d'énormément d'empathie au bureau, mais avec des amis, des collègues et autres. Quand tu es une personne qui réagit d'une certaine façon à une situation, à quelque chose que tu viens de dire et tout ça, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi cette personne-là réagit de cette façon-là et de dire parfois, je vais pas partager ta façon de penser, mais je comprends pourquoi telle ou telle chose peut te choquer. Et ici, on a eu l'exemple typique, t'en avais parlé, c'est-à-dire grâce à toi que j'avais vu des épisodes sur Netflix, Unorthodox, relation qu'ont les Américains avec les religions, où c'est ultra, ultra libéral, personne ne va rien te dire si tu te balades avec, je sais pas, une énorme crucifix de 2 mètres dans la rue, personne ne va absolument rien te dire. Alors, c'est un truc absolument impensable en Europe, où la religion, ça reste du domaine privé, et on ne sort pas ça dans la rue. Et c'est vrai qu'il y a au niveau des religions, le monde très fermé des hassidiques à New York, c'est un truc, si on l'a pas vu, ça peut être très difficile à comprendre et à croire de la part d'un Européen qui a été nourri depuis ouais, des dizaines d'années dans un univers de laïcité et compagnie.
Ah oui, absolument. Et du coup, à l'inverse, quand tu... Bon, du coup, tu n'étais pas rentré très très longtemps en Espagne, mais tout de même, quand tu rentres en Espagne, est-ce que tu te sens un peu différent? Est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent, par exemple, parce qu'on redécouvre toujours son pays d'une autre manière, ou alors quand tu retournes en France?
Mais dis donc, est-ce que
ça te manque, par exemple?
Disons que je suis tellement content de retrouver les restaurants, les bars et tout ça. Bon, maintenant, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas trop comment est la situation, parce que depuis qu'il y a eu le Covid, je n'ai pas pu remettre les pieds ni en Espagne, ni en France d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'avant, c'était une culture où on était... Enfin, j'allais au restaurant 5 fois par semaine, dans les bars avec des amis quasiment tous les jours. Et c'était un mode de vie un peu différent de ce que j'ai ici. Mais quand j'arrive en Espagne, ouais, c'est une chose qui avant ne me choquait pas, parce que c'est ce que j'avais toute la journée avec moi. Maintenant, c'est la façon de vivre, genre de se coucher tard, manger tard, d'aller surtout prendre un verre, une bière avec un ami. Comme dans l'un des derniers podcasts que tu avais fait, la personne disait que c'était... Ici, il faut avoir une raison pour aller emmener quelqu'un prendre un verre quelque part. Et c'est vrai que moi, avec des collègues, je sais qu'en Espagne, je dirais, ça vous dit d'aller prendre une bière après le boulot? À part 2 que j'ai dans mon bureau, les autres, ils vont te demander pourquoi.
Ah oui.
Alors qu'en Espagne, c'est, moi, je suis à la maison, je me fais chier, j'ai appelé un copain, tu fais quelque chose? Non, bon, allez, on va descendre, on va aller prendre quelques tapas dans le centre, et personne va te poser de questions. Et même si tu n'as rien à dire, tu vas passer 3-4 heures dans un bar et ça marche.
Donc toi, du coup, quand tu reviens, tu es plutôt content de retrouver cette vie européenne. Est-ce qu'il y a des choses, à l'inverse, qui te manquent des États-Unis?
Surtout, ouais, le niveau de la bouffe et la vie, un peu... Ouais, c'est le fait d'avoir autant de restaurants et tout ça. Bon, je suis pas non plus dans la meilleure ville aux États-Unis pour avoir ça, parce que c'est vrai que si tu vas à New York, des restaurants, tu les as pareil qu'en Espagne, tu vas à Washington, à Los Angeles, tout, t'en as partout. Là, juste là où je suis, c'est vrai que c'est un peu différent. Après, il y a certains trucs, ça m'a pas trop affecté directement, personnellement, mais c'est vrai que je sais qu'il y a une différence entre les États-Unis et l'Europe. C'est une sensation où on est parfois un petit peu, aux États-Unis, on va dire, plus libre de faire ce qu'on veut. Et au niveau des normes et des standards, il y a certains trucs aux États-Unis, ils sont beaucoup plus stricts qu'en Europe. Par exemple, les normes de sécurité électrique pour les baraques et les équipements, les électroménagers et compagnie, c'est beaucoup plus strict qu'en Europe. Mais les gens sur la route, le trafic et compagnie, enfin, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Bon, ils conduisent comme des quiches ici, mais c'est vrai qu'ils ont ils ont un peu leur permis de conduire, les pochettes surprises, tu payes 13 dollars, ils te donnent la carte pour savoir conduire. En gros, tu sais appuyer sur un accélérateur, un frein et mettre le clignotant et ils te donnent ton permis, quoi. Alors qu'en France, ça prend entre 1000, 1200 euros, plus 6 mois de cours pour avoir un permis de conduire. Et c'est vrai que sur la route ici, c'est quand même, ils conduisent un petit peu à l'arrache. Mais d'une autre façon, c'est des choses que je préfère ici par rapport à l'Europe. Genre le truc typique de pouvoir tourner à droite quand tu as un feu rouge. En Espagne, c'est quand même très rare de faire ça. C'est considéré comme griller un feu rouge. Et c'est des choses qui te disent, c'est logique. En fait, c'est juste logique. Et ça évite d'avoir des tonnes d'embouteillages sur les routes.
Donc, tu as la sensation qu'aux États-Unis, il y a quand même une certaine liberté qu'on n'a pas forcément en Europe sur certains points?
Sur certains points, ouais. C'est-à-dire qu'on va te laisser faire des trucs. Par exemple, ouais, je vois sur les voitures, bon, c'est pas du tout mon style, mais si tu as envie de tuner ta voiture et de, comme ici, ils font pas mal, genre de rabaisser les amortisseurs ou de les surélever au contraire pour les trucks et tout ça, changer les lumières, tu as envie de te mettre des lumières bleues sur le devant, c'est absolument pas homologué, mais personne ne va rien te dire. Tu vas avoir ça alors que Espagne, je sais pas, moi je fais beaucoup de motos, tu changes tes clignotants de moto pour des clignotants triangulaires, si tu te fais gauler par la Guardia Civil, c'est directement 135 euros d'amende ou ils vont t'immobiliser le véhicule, ils vont pas te laisser conduire. Et les inspections, par exemple ici, les inspections sur les voitures, les inspections techniques comme le contrôle technique en France, c'est beaucoup plus laxiste et c'est vrai qu'il y a des choses en Espagne. Moi, je me souviens, j'ai un copain, sa voiture a été immobilisée, il ne pouvait plus la conduire parce qu'il avait une ceinture arrière qui ne marchait plus, la ceinture du milieu.
Ah ouais.
C'est-à-dire qu'il utilisait lui tout seul, simplement comme la voiture était déclarée avec 5 ceintures de sécurité, celle du milieu ne fonctionne pas, la voiture ne peut plus circuler. Et tu te
Ouais.
dis, allô? C'est un peu. Alors qu'ici, moi j'ai une lumière d'airbag passager qui s'allume continuellement sur ma voiture. J'ai déjà passé 2 inspections techniques et ils ne disent rien, quoi.
Ah ouais, ah, c'est amusant ça.
Il est pareil pour la moto, elle peut faire du bruit, tu peux avoir des pots coupés ou autres. Personne ne va jamais rien te dire. Alors qu'en Espagne, tu fais ça, tu vas avoir une plainte d'un voisin, tu as la police qui va arriver, et tu vas te prendre une bonne amende. En plus, en t'obligeant de changer tes pots d'échappement si ça fait du bruit.
Ouais, absolument. Eh bien, avant de terminer ce podcast, j'aimerais bien parler un peu d'avenir, en espérant que la situation devienne meilleure. C'est quoi les trucs que tu as vraiment envie de faire aux États-Unis? C'est quoi qui te fait rêver? C'est quoi tes projets ici?
Alors, chose qui me font rêver au niveau du tourisme, j'aimerais bien aller faire le tour du lac Michigan en moto en été. Ça, c'est un truc
Ouais.
qui me fait bien rêver depuis pas mal de temps. Puis les grands parcs naturels dans les Rocheuses, aller voir dans le Colorado et tout. C'est vrai que moi, les grands espaces, ça me fait un peu plus rêver qu'aller visiter une ville. J'ai des amis qui sont en Europe et ils disent, ah, il faut absolument qu'on se retrouve. Si tu habites encore aux États-Unis, on ira à New York. New
Ouais.
York, c'est vraiment la ville symbole, mais enfin, c'est pas. Enfin, moi, c'est vraiment pas le truc qui me fait le plus triper. En revanche, par exemple, l'année dernière, quand je suis allé à Las Vegas et j'ai profité pour visiter le barrage d'Hoover, il fallait faire un tour autour du barrage dans ce coin-là et tout, ça aurait quand même beaucoup plus beauté qu'autre chose. Ou j'aimerais
Ouais,
bien aller
j'imagine.
voir les grands parcs dans le centre ou en Californie, ça, c'est les trucs qui me plairait bien. Après, c'est vrai que si on m'avait demandé il y a combien, il y a un an et demi, est-ce que tu veux rester aux États-Unis, t'établir ici, machin, j'aurais dit, bon, ouais, sûrement, c'est vrai que le boulot est très intéressant, on a une bonne équipe, les salaires sont à des années-lumière de ce qu'on a en Espagne, et voilà, ouais, ça marchait bien, sauf que du coup, ben, le Covid est arrivé, et pendant plus d'un an, j'ai pas bougé de ma maison. Et là, je commence un petit peu à me remettre en question. Alors, si la situation change et on nous repermet de voyager à la moitié de 2021, fin 2021, ça pourrait aller. Enfin, c'est ce que je dis à mon chef l'autre jour. Si en 2021 et 2022, la situation ne change pas, je vais vraiment commencer à sérieusement me poser la question de savoir qu'est-ce que je fais ici.
Ouais.
Parce que pendant un an, tu vois pas d'amis, tu vois pas de famille, tu voyages pas, tu fais rien, c'est pas pour ça que j'ai signé, on va dire.
Oui, parce qu'il y a quand même cette difficulté quand on est à l'étranger, c'est que on est loin de notre base, donc même si on découvre plein de choses, j'imagine que c'est pas forcément facile d'être éloigné de notre famille, de nos amis, etc.
Ouais, puis aussi un truc qui pèse pas mal dans la balance, c'est qu'au niveau des voyages, même dans les États-Unis, j'ai absolument pas de famille ici. J'ai pas mon groupe d'amis comme j'avais quand j'étais en Espagne. J'habite seul, je vis seul. Et il y en a qui m'ont dit, ah, bah, tu peux aller visiter les Keys en Floride ou tu peux aller visiter je sais pas quoi, je sais pas quel parc et tout. Je dis, attends, je vais pas aller me taper une semaine dans une cabane au fond des bois en étant tout seul dans la maison. Bah, trouve un pote pour y aller. Oui, mais ici, j'ai pas de pote pour aller visiter ce genre de choses. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué après d'aller faire du tourisme quand on est un peu seul. Il y a des gens qui sont très, très dispo pour aller faire du tourisme tout seul avec crapahuter dans les montagnes, dans les rocheuses. Puis ici, on a quand même des montagnes pas mal dans l'ouest de la Caroline du Nord, les Smoky Mountains. et où il y a des belles routes à faire en moto et tout ça. On faisait pareil, si j'y vais en moto, c'est pas pour être tout seul, je préfère aller me trouver un groupe d'amis. Après, mais dans les groupes d'amis que j'ai, autant pour la moto comme ceux que j'ai au boulot, ils sont quasiment tous mariés avec les gosses, donc aller faire une excursion pendant 4 jours, c'est pas forcément au niveau logistique très, très facile. Donc c'est pour ça que au final, je bouge pas des masses, on va dire, de la maison. Mais j'ai bien l'intention, là, après avoir eu les deux doses du vaccin, de pouvoir voyager un petit peu plus. Et je dis, si cet été, par exemple, je peux toujours pas aller en Europe parce que après, je pourrais pas revenir aux États-Unis. Je pense que j'irai faire un tour, visiter Hawaï ou Porto Rico, là, comme c'est des territoires américains. Ah oui. Pas de problème pour y aller. J'ai un collègue de bureau qui est portoricain. Donc, je lui ai dit, pour cet été, tu vas me donner les conseils et les recommandations. Et oui. Quand je vais visiter un endroit, c'est vrai que je préfère encore avoir des gens de la région qui peuvent t'indiquer, te servir de guide. J'ai fait ça quand même pendant pas mal d'années. Quand gens venaient me voir en Espagne, je servais un peu de guide touristique pour la ville, ou quand j'en emmenais des amis espagnols à Paris où je leur faisais le guide, c'est toujours plus intéressant pour une personne d'avoir quelqu'un qui a habité dans la région, qui peut te raconter les anecdotes qu'autre chose. Parce que par exemple, là, il y a quelques personnes qui sont venues me voir à New Bern. C'est pas non plus la ville la plus touristique, mais enfin, c'était pendant quelques années, ça a été la capitale de la Caroline du Nord, qui, à mon humble avis, était quand même un peu mieux choisie que Raleigh maintenant, parce que en fait, la ville elle donne sur deux fleuves. La Trent et la Neuse. Et donc, et là, pour une capitale où tu pouvais avoir accès à l'océan Atlantique et accès aux rivières pour pouvoir naviguer à l'intérieur des terres, c'était quand même plus intéressant. Enfin, ça a été bougé à la fin du XVIIIe siècle et c'est passé à Raleigh, là où c'est maintenant. Enfin, on a toujours la maison du premier gouverneur de Caroline du Nord, ici à New Bern. Et pour les petites anecdotes, ici, ils en sont très fiers. C'était la ville où a été inventé le Pepsi Cola en 1898. Donc, il y a le musée de Pepsi Cola, l'officine de pharmacie de Caleb Graham, qui était à Middle Street, dans le centre. Mm-hmm. Maintenant, c'est un restaurant qui n'est pas dégueu du tout, d'ailleurs. Et juste en face, il y a le magasin de merchandising où ils vendent tous les trucs de Pepsi et toutes les marques qu'a PepsiCo dans son répertoire, c'est-à-dire Mountain Dew, Dr. Pepper et compagnie.
Et ben voilà, typiquement, c'est pas du tout le type de ville qui est très connue et j'adorerais visiter. Donc j'espère un jour pouvoir y faire un tour et je te souhaite de pouvoir continuer à voyager aux États-Unis. Je te remercie beaucoup pour avoir parlé dans ce podcast, c'était super.
Je t'en prie, ouais, c'était intéressant.
Merci à toi, à bientôt.
Merci, salut.
Et merci à vous, auditeurs, j'espère que le voyage vous a plu. Pour ne pas louper les prochains épisodes, abonnez-vous au podcast, partagez-le et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça m'aide énormément. Pour ceux qui me découvrent, je possède également une chaîne YouTube au nom de Arthur Genre, sur laquelle je parle d'histoire et culture américaine. Je vous invite vivement à y faire un tour et à vous y abonner si vous voulez continuer ce voyage virtuel en outre-Atlantique. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.